Bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Le titre avant de commencer, l'économie congolaise a réellement besoin de beaucoup de financement pour se développer. Et pour cela, il faut développer des marchés financiers en République démocratique du Congo en vue de trouver les financements nécessaires à l'économie congolaise. Un atelier de réflexion sur les modalités pratiques a regroupé cette semaine à Kinshasa des experts congolais et ceux de la firme Worldson Audit and Consulting et la Banque centrale du Congo. Sans trop de précision, le gouvernement congolais promet son soutien aux opérateurs économiques de la RDC du secteur des importations des biens de première consommation, selon le compte rendu de la réunion de la Troïka stratégique réunie ce lundi à la primature. L'objectif est de parvenir à la réduction des prix de ces produits sur le marché congolais après la publication du rapport MENA Finance. Et nous allons également dire un mot sur la Société nationale d'assurance qui a lancé cette semaine à Mbujimayi, au Kasaï oriental, l'opération de recouvrement forcé, une opération qui n'enchante pas les automobilistes et entraîne des répercussions sur le transport en commun dans cette ville. François Kadima et Daniel Tambizoni vous présentent la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Et notre invité pour des analyses et commentaires cette semaine s'appelle Atigo Lofimbo. Il est député national élu de Kailo au Maniema, en même temps secrétaire général de l'Union nationale des paysans du Congo. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, honorable, pour discuter de l'actualité économique de la semaine. Bienvenue à Panorama Économique.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Bienvenue à tous. Ouvrons panorama économique par cette nouvelle de la Banque centrale du Congo et la firme Worldson Audit and Consulting qui ont organisé cette semaine à Kinshasa un séminaire atelier de deux jours sur le développement des marchés financiers en RDC. L'Institut d'émission entend ainsi promouvoir le développement d'un marché financier en RDC en vue de parvenir à un financement adéquat de l'économie nationale.
Pour De Gracias Mutombo Mwananyimbo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'objectif poursuivi et d'accompagner le gouvernement dans son projet d'insérer l'économie congolaise parmi les économies émergentes à l'horizon 2030. Mais pour y parvenir, a dit le gouverneur, la RDC ne devra plus compter seulement sur les partenaires dont l'aide publique au développement et les financements sont de plus en plus faibles. L'atelier de Kinshasa doit réfléchir sur les conditions d'émergence d'un marché financier structuré et moderne en RDC. Deo Gracias Mutombo au micro de Radio Capi.
Face à la réduction de l'aide publique au développement et à la faiblesse des financements bilatéraux et multilatéraux au regard des besoins de développement du pays, il est indispensable de réfléchir sur l'élargissement de notre système financier en incluant le volet marché boursier en vue d'optimiser les financements de l'économie nationale. C'est ici le lieu d'indiquer que ces efforts sur fond de stabilité du cadre macroéconomique installé dans la durée ont débouché sur plusieurs résultats qui ont positivement affecté notre système financier et favorisé sa situation actuelle. À titre illustratif, il convient de citer 1. L'augmentation fulgurante des dépôts de la clientèle de banque, lesquels ont été multipliés par 28,6 entre 2001 et fin juin 2013, passant de 90 millions de dollars américains à 2,7 milliards de dollars, soit un accroissement moyen annuel de 198%. 2. L'accroissement de l'encours du crédit bancaire multiplié par 49,5 durant la même période, passant de 30 millions de dollars américains seulement à 1,6 milliards de dollars, soit une progression moyenne annuelle de 372%. L'amélioration du paysage bancaire qui, à ce jour, compte 18 banques agréées opérationnelles contre à peine la moitié en 2001. L'amélioration du taux de bancarisation du pays passé de 1,5% à 5%. Sur le plan macroéconomique, la confiance mutuelle, banque commerciale, ménage et entreprise a été rétablie.
La confiance entre banque commerciale, ménage a été rétabli, a dit le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et nous revenons dans ce studio où nous recevons le député Atigo Lofimbo, élu de Kailo Maniema, qui commente l'actualité économique aujourd'hui avec nous. Honorable, Il faut un marché financier au Congo pour que celui qui a besoin de l'argent pour développer son activité le trouve facilement. La Banque centrale pense que l'environnement économique est assez stable maintenant et le moment est venu pour ériger des marchés financiers en RDC. Votre commentaire?
Oui, merci beaucoup. Il aurait fallu d'abord à ce que nous puissions avoir un Premier ministre comme Matata Ponyo, qui veut bien qu'on l'appelle toujours Mapon. Bien sûr, nous avons vu comment il s'est penché en tant qu'économiste sur le problème de finances au Congo. Il a su stabiliser notre macroéconomie. Il est temps maintenant que nous puissions passer à ce type de marché. Bon, comme vous le savez, d'abord dans notre pays, beaucoup d'opérateurs économiques privés sont en train de souffrir. Même la culture bancaire vient d'être aujourd'hui redynamisée. C'est grâce toujours à Monsieur Matata. Et la culture aussi des bourses, c'est quelque chose qui n'est pas encore connu au Congo, en particulier, et en Europe en général. Il fallait que nous puissions aussi passer à ce système, parce que beaucoup d'opérateurs économiques occidentaux, vous le voyez s'épanouir, c'est grâce à cette culture aussi, donc le système des bourses. Pourquoi il fallait attendre plus de 50 ans pour qu'on puisse introduire ça ici chez nous, en Afrique, en général au Congo en particulier? Donc nous saluons cette initiative du Premier ministre avec le gouverneur de Glasses Mutombo, qui puisse bien réfléchir sur ça. Mais peut-être un petit commentaire. Je me dis, depuis très longtemps, nous sommes en train de souffrir. Souvent, le mécanisme d'accès ou d'accessibilité à ce financement, c'est toujours compliqué.
Très compliqué.
Très compliqué.
Et on donne ces financements avec des conditionnalités exagérées.
Oui. Exagérées, compliquées. Je me demande, est-ce qu'ils vont réussir? Parce que nous avons déjà fait beaucoup de réunions, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. On a déjà discuté. Vous allez voir, nous, par exemple, qui gérions les organisations paysannes, donc les ONG et Asbel, qui se préoccupent de paysans. Est-ce que nous aurons vraiment la possibilité d'accéder à cela? Si nous voyons ceux qui sont des grands opérateurs économiques ont des difficultés pour trouver des partenariats avec le banquier, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas un bon partenaire dans ce sens-là. Que dire de nos petits paysans? Bon, nous encourageons d'abord que ça vienne, mais le gouvernement doit savoir que dans tout ce qu'ils doivent développer comme mécanisme d'accessibilité,
qu'on le développe pas seulement pour les grands,
voilà,
qu'on pense aussi
pour le petit opérateur économique,
les paysans, les justement paysans qui sont dans des organisations paysannes,
voilà,
pour aussi assurer leur développement. Oui. Honorable, nous vous gardons le temps d'aborder ce deuxième sujet de la semaine. Deux dossiers brûlants de l'économie congolaise étaient également cette semaine inscrits au menu de la réunion de la Troïka stratégique lundi à la primature.
Il s'agit de dossiers sur le prix du ciment gris et de denrées de première consommation. Abordant le premier, du ciment gris, le gouvernement pense que cette nouvelle spéculation est une preuve qu'il est temps de mettre un accent sur la production locale. Et quant au prix de biens de consommation, la Troïka se propose de soutenir les opérateurs économiques locaux pour arriver à mettre un terme à ce phénomène. Le vice-premier ministre et ministre du budget l'a dit au sortir de la réunion. Daniel Mukokosamba.
Donc au cours de la réunion d'aujourd'hui de la Troïka stratégique, nous avons levé l'option pour le gouvernement de soutenir certains opérateurs congolais qui ont de l'expérience dans ce secteur, de manière à nous donner des intervenants dans ce secteur qui vont travailler de manière à ce que progressivement nous puissions mettre un terme à ces pratiques de fragilisation de notre économie et qui, bien sûr, comme vous le savez, concourent à l'augmentation des prix des produits qui sont les plus consommés dans le pays.
Et puis le ministre de l'économie et son collègue des finances ont réuni mercredi les experts des différentes structures étatiques pour la mise en place d'une feuille de route à ce sujet. À en croire le conseiller principal du Premier ministre au collège économie, finances et budget, associé à cette rencontre, des stratégies sont déjà envisagées pour lutter contre la dépendance alimentaire de la RDC, mais des stratégies qui ne sont toujours pas révélées. Nous retrouvons notre invité, l'honorable Atigo Lofimbo. Honorable, Le gouvernement prend l'option de soutenir des Congolais qui sont dans le secteur des importations de biens de grande consommation. Et votre crainte, justement, c'était ça, qu'on ne pense pas seulement aux grands, qu'on pense aussi aux organisations paysannes qui souffrent jusque-là. Quel commentaire vous pouvez faire de cette déclaration du gouvernement?
Soutenir les grands opérateurs économiques qui ont de l'expérience, nous demandons ce sera de quelle façon, de quelle manière. Mais laisse-moi m'attarder un peu pour essayer de faire voir un tableau qui puisse être, je ne sais pas moi, sombre de l'histoire économique de notre pays ou de l'histoire en général de notre pays.
D'accord.
Parce que pour parvenir à dénicher ce qu'il y a comme problème et trouver des solutions à ces problèmes de prix sur le marché, les prix qui sont toujours exorbitants par rapport à tous les prix des marchés dans tous les pays africains, les prix au Congo sont toujours galopants. Mmh. C'est une situation très grave. Et à la base, c'est d'abord l'extraversion de notre économie. De manière totale, nous importons tout sauf rien. Même les matembélés. Matembélé qu'on appelle à Kinshasa, matembélé à l'est, oui, pour les swahilophones. Les pondous ici, nous importons ça de partout. Moi, j'étais au Katanga. Moi, personnellement, nous avons importé les pondous.
Le Katanga dépend du riz, du maïs de la Zambie.
Le maïs de la Zambie. Quand nous n'avons même pas au maïs. Je parle bien de ce qu'on peut produire très facilement, légumes. Ce qui ne coûte rien, absolument rien pour un paysan pour produire ça. Nous avons du mal à encadrer ne fût-ce que le petit paysan pour produire ne fût-ce que des légumes. Mais vous comprenez déjà s'il faut importer les pondous. Mais finalement, ce pays, l'économie est comme à quel niveau? Nous allons très loin.
C'est
une première fois depuis 53 ans de souveraineté de notre pays. C'est une première fois que nous voyons un gouvernement qui veut se décider de transformer les choses, c'est-à-dire de se préoccuper de l'intraversion de notre économie. C'est une première fois. Je suis déjà adulte, en tout cas tous les restes des premiers ministres de gouvernement que nous avons connus dans ce pays, personne ne s'est jamais penché sur un secteur donné du pays pour transformer profondément ce secteur. Tous les secteurs, c'est du poto-poto. Vous allez dans l'environnement, poto-poto. Vous allez dans la justice, n'en parlons même pas. C'est comme si nous, au Congo, nous étions chez le diable. Nous allons dans l'éducation, c'est poto-poto, ce qui termine les humanités aujourd'hui, c'est quoi? Donc tous les secteurs, mais l'agriculture qui est si simple de pouvoir développer cela, est-ce que ça demande? Ça ne demande même pas de gros moyens comme dans l'industrie minière. Aujourd'hui, si on se dit, nous pouvons rendre ce pays émergent dans peu de temps, redresser l'économie, qui ne sait pas que l'agriculture c'est le poumon de notre économie? Alors.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette agriculture?
Mais c'est ça, c'est, aujourd'hui, quand nous le Premier ministre parle de la relance agricole, c'est une première fois que nous entendons, on commence à envoyer dans les provinces 5 milliards de francs congolais, donc l'équivalence à peu près de 5 millions, 600 quelques, qu'on a déjà envoyé dans les provinces pour pouvoir développer l'agriculture. Mais il fallait le faire depuis tous ces temps, parce que si on ne produit pas, comment vous allez réduire le prix sur le marché? Parce que tout est importé. Ce qui est importé, tout un chacun met le prix selon de la manière dont il a supporté les charges. Et chacun fait, mais impose son prix sur le marché.
Et c'est possible que cette fois-ci, on y parvienne quand même.
Non, si nous nous décidons maintenant de pouvoir investir dans l'agriculture, parce que c'est d'abord là qu'il faut chercher à réduire le prix là. Si la population est en train de pleurnicher, c'est parce qu'elle ne parvient pas par rapport à son pouvoir d'achat qui est trop bas. La population ne parvient pas à accéder aux denrées même de première nécessité. Ça, c'est déjà une grande première difficulté. Même le gouvernement ne sera pas à l'aise de pouvoir résoudre les autres problèmes. Donc, j'exhorte le gouvernement, j'exhorte le Premier ministre, la stratégie de relance agricole, qu'on s'y prenne d'abord au sérieux. Prenons d'abord ce secteur-là, dans le peu de temps qui nous reste pour ce mandat de 5 ans. Si nous pouvons nous concentrer à cela, comment produire? Comment
évacuer,
comment conserver, parce que c'est pas tout de suite que vous allez évacuer. Mm-hmm. Comment évacuer, comment transformer, même sur place. Et nous, dans notre organisation, l'UNPC, l'Union Nationale des Paysans Congolais, nous avons des experts camerounais qui sont venus ici. Vous nous avez vu, nous avons formé les députés, parce que nous avons besoin qu'on crée une classe moyenne. Des gens qui ont un peu de petits moyens pour pouvoir créer des petites unités économiques qui vont aider à commencer à transformer les produits que nous produisons localement. Mais il n'y a aucun gouvernement qui a déjà cherché à promouvoir la production locale.
L'épargne qu'on fait ici, est-ce que le coton, il y a encore une politique de promouvoir le coton? Il n'y en a pas.
Le caoutchouc.
Le caoutchouc, nous avons le meilleur sol du monde entier. Mais nous pouvons produire le caoutchouc et transformer ici, nous vantons avec la valeur ajoutée. Le pays peut se développer, ne plus que même avec ça, parce que la Côte d'Ivoire, nous voyons ça, c'est avec seulement
son
le
cacao,
coton.
Oui, son cacao.
Son cacao. Mais nous pouvons produire plus que la Côte d'Ivoire par rapport à notre superficie, donc l'étendue, et par rapport à la qualité de notre sol. Donc, il suffit de donner un peu de moyens à ceux qui ont un peu de moyens comme députés, ministres et gouverneurs. On peut créer facilement une classe moyenne, mais il n'y a pas une volonté politique. C'est là que je suis en train d'encourager l'actuel Premier ministre qui essaye un peu de se lancer dans cela.
Vous n'allez pas trop le jeter de la fleur parce qu'il est de votre province?
Pas du tout, ce n'est pas seulement cela. Je vous ai dit, c'est la première fois de voir quelqu'un qui essaie de prendre un secteur qu'il cherche à développer en transformant profondément.
Nous avions aussi entendu, toujours ici en RDC, retroussons nos manches et allons dans les champs travailler.
Oui, oui, bien sûr, les moyens, le peu de moyens qu'on donne, il faut aussi...
Vous ne voulez pas dire que c'est resté slogan?
Depuis tous ces temps, c'était resté slogan. Parce qu'on va, retroussons le match, allons travailler. Ok, vous allez travailler, il n'y a pas de moyens, tout s'accompagne. Il faut faire accompagner tout cela. Donc même le gouvernement aujourd'hui, le peu de moyens qu'il a là, nous disposons, nous, dans notre organisation, nous disposons des techniques ou technologies pour produire donc les différents maillons de l'agriculture. Nous avons de la technologie pour chacun de maillons. Comment avoir beaucoup de semences? La multiplication, la micropropagation des semences. Nous avons cette technologie. Au niveau de deuxième maillon, comment produire? Comment transformer? Nous avons des experts qui ont des technologies pour former les paysans à transformer localement.
Les financements manquent.
Les financements manquent.
Il faut approcher le gouvernement pour qu'il vous aide
à... La Banque centrale est en train de chercher à créer des marchés financiers.
Bon, ils vont nous trouver parce que nous avons déjà des projets bancables dont ils ont toujours besoin.
Merci beaucoup, honorable. On vous garde et on attaque le troisième et dernier dossier de cette semaine qui nous conduit au Kasaï oriental où la Société nationale d'assurance a lancé une opération de recouvrement forcé dans la ville de Mujimaï. C'est une opération qui a entraîné des répercussions sur le transport en commun dans la ville. Retour sur les faits mardi avec vous, Nikemputu.
Ce bouclage des agents de la SONAS a démarré ce lundi. Conséquence, il est actuellement difficile de trouver un moyen de transport, surtout dans les heures creuses à Mbujimaï. C'est notamment le matin, l'heure où les travailleurs tiennent à se déplacer. Les mototaxis, moyen le plus utilisé ici à Mbujimaï, deviennent rares. Toutefois, cette situation n'a pas encore d'impact sur le prix du transport. Ces agents de la SONAS ont pour mission de contrôler l'assurance sur les automobiles roulants, un montant fixé à 125$ pour les mototaxis et à 101$ pour les personnels. C'est pratiquement dans tous les carrefours que ces agents sont postés. Certains sont dans une tenue camouflée, créant ainsi une surprise pour les fraudeurs. À la SONAS, l'on précise que ce recouvrement vise deux catégories d'assujettis. Premièrement, la SONAS voudrait recouvrer le paiement fractionné accordé à certains de ses clients en guise de facilité, mais qui ne se sont jamais acquittés de cette dette. En deuxième ressort, l'on vise aussi tous ceux qui n'ont pas encore payé leur assurance. Ce recouvrement, souligne le directeur provincial de la SONAS, permettra à cette société d'honorer son engagement principal, à savoir payer les sinistres à sa clientèle. Mbujimaï, Niké Mputu, Écho d'économie.
Merci beaucoup Niké et bon week-end à toi. Retour dans le studio de Panorama économique avec notre invité, l'honorable Atigo Lofimbo. Honorable, cette problématique de l'assurance en RDC, elle est obligatoire alors que peut-être nous savons, chacun est libre de souscrire à la police, à l'assurance.
L'assurance, oui.
Mais comment, qu'est-ce qui se passe là en RDC? C'est comme ça que ça devrait se passer?
L'assurance était obligatoire dans le temps ou jusqu'aujourd'hui, mais nous avons déjà une loi qui est en gestation bientôt là. Ça pourra être envoyé à la présidence pour la promulgation, ou je pense que c'est déjà arrivé là-bas. Donc, très bientôt, il y aura déjà une nouvelle loi qui a libéralisé
le secteur de l'assurance.
Donc, si l'assurance continue encore à faire cela, bon, peut-être c'est pas par méconnaissance.
Si l'assurance est libéralisée, donc ça, cela veut dire que on n'est pas obligé.
Oui, c'est dit. C'est pas obligatoire dans le temps, mais ce ne sera plus obligatoire. Mm-hmm. Ça dépendra de tout un chacun. S'il le veut, il le fera. S'il ne veut pas, ou il choisit.
Il va choisir l'assureur de son
choix.
D'accord.
Ouais.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, L'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre info de la semaine en plus bref, le gouvernement congolais étudie les possibilités de relance de la Caisse d'épargne du Congo, la CADECO, au cours de la réunion du groupe thématique qui a réuni lundi les ministres du secteur productif à la primature. Louise Munga du portefeuille a proposé de recourir à un appel d'offres restreint pour la mise en marche de la CADECO. L'idée est de privilégier un partenariat public-privé pour y arriver. Plusieurs autres points ont été abordés lors de cette réunion du groupe thématique et des recommandations ont été formulées.
Dans un communiqué publié lundi, l'entreprise minière Tenkefungurume Mining indique avoir payé un montant d'environ 51 millions de dollars américains au titre d'impôts et paiements connexes au trésor public au cours du deuxième trimestre 2013. Par ailleurs, TFM annonce que depuis le démarrage du projet en 2006, ces paiements ont représenté près de 800 millions de dollars américains. Et d'ajouter que les investissements cumulés dans le projet atteignent environ 3 milliards de dollars américains. Ce serait l'investissement privé le plus important dans l'histoire de la RDC.
Les prix des produits manufacturés prennent de l'ascenseur dans le territoire de Niangara en province orientale. L'administrateur du territoire qui constate l'augmentation du coût de la vie dans sa juridiction ainsi que dans les territoires voisins accuse principalement la dégradation de tous les ponts jetés sur les quatre axes qui mènent vers cette entité.
En Nord-Kivu, la taxe dite « taxe invisible » divise les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération nationale des artisans, moyennes et petites entreprises, FENAPEC, et la Direction générale des impôts. Cette taxe est illégale, affirme cette chambre de commerce en province. La Direction provinciale des impôts, DGI, rejette ces allégations et parle d'une mauvaise interprétation de certaines dispositions légales en la matière.
Merci François, et nous allons retrouver notre invité, honorable, je vous ai vu prendre non, t'as acquissé un peu de la tête. Un commentaire sur cette série d'infos de la semaine?
Oui, ce qui a attiré mon attention, c'est la relance de la CADECO. C'est une question qui m'a toujours préoccupé et je voulais encore une fois de plus apprécier le gouvernement. Mais quelque part, je suis en train de condamner parce que ce gouvernement qui semblait avoir l'intention d'intravertir l'économie, mais dans le secteur de banque, on a plus donné confiance et beaucoup de faveur aux banquiers étrangers, alors que nous avons un banquier
national, donc,
national qui est la mieux implantée partout dans les territoires du pays, une structure à laquelle on pouvait confier la bancarisation des salaires de tous les fonctionnaires de l'État.
Ce serait une opération vite réussie.
Oui, ça devait réussir très facilement et d'ailleurs c'est une façon de réhabiliter et
relancer redonner
une structure nationale, donner de l'emploi encore aux nationaux et garder le peu de bénéfices que les autres tirent, ça devait rester encore dans notre économie ici. Donc moi ici, Antoine, pour le Premier ministre, il aurait fallu donner beaucoup plus de poids à la CADECO que d'aller vers les banques internationales ou étrangères.
Mais déjà le gouvernement se propose d'offrir un partenariat
après avoir offert des grands marchés aux banquiers internationaux, alors qu'il fallait commencer d'abord par... Et puis même les paiements de frais académiques que les étudiants sont en train de faire. Toutes ces choses, donc les petits financements là, donc les salaires, tout ça, ce sont des choses qui devaient être locaux ou nationaux, ça ne pouvait pas être confié ça aux internationaux, ce n'était pas une bonne chose.
Disons. Et vous pensez que l'opération de la bancarisation de la paye des fonctionnaires peut réussir à travers le réseau de la CADECO qui est implanté sur toute l'étendue de la RDC?
Oui, parce que dans les provinces, il y a des problèmes. Comment les gens doivent quitter des territoires très éloignés des centres-villes, des chefs-lieux de province, là où il y a les banques où on est en train de payer. Donc, des marches qu'ils doivent faire, ça pose problème.
Le temps que des responsables viennent, des enseignants, des infirmiers, le temps qu'ils se déplacent, derrière eux, les cours n'ont pas lieu, et derrière eux, les
Mais
malades
sont... Mais avec la CADECO, ce sera facile et vite fait.
Très facile.
Ouais.
Panorama économique, matière première.
Notre rubrique matière première revient sur ce petit dossier réalisé mercredi dans notre magazine Écho d'économie.
par des plaintes en rapport avec l'essence de mauvaise qualité qui serait vendue dans les stations-service. Et pour en savoir plus, nous avons entrepris de mener une petite enquête là-dessus. Daniel Tambinzoni, vous êtes descendu sur terrain. Qu'est-ce que vous avez découvert jusque-là?
Eh bien, Mireille, de plus en plus de voix se lèvent pour décrier la mauvaise qualité du carburant commercialisé aujourd'hui à Kinshasa. Il serait à la base de multiples pannes que connaissent les véhicules qui en font usage. Nous avons circulé dans plusieurs communes aujourd'hui. Nous avons parlé avec des chauffeurs garagistes. Leur plainte, en résumé, tourne autour de l'OCC qui doit doubler de vigilance dans le contrôle de ces produits lorsqu'ils entrent au pays. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce chauffeur rencontré au quartier Yolo dans la commune de
Le carburant d'aujourd'hui n'est plus bon. Même avec de nouvelles bougies, la combustion ne se fait pas bien. Il détruit même les bougies. Nous demandons à l'OCC de bien faire les contrôles de ces produits parce que l'essence avait assuré une bonne combustion, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Eh bien, quelque chose, malheur, est bon, dit-on, hein, Daniel. Cela doit faire une bonne affaire pour les mécaniciens et garagistes qui reçoivent désormais beaucoup de clients.
Sûrement, Mireille, mais c'est lassant de faire le même travail à tout moment, nous ont dit les mécaniciens, qui confirment tout de même la mauvaise qualité de ce carburant.
J'ai déjà reçu plusieurs cas dans ce métier. Pour tester la qualité du carburant aujourd'hui, passez-le seulement au travers d'un linge pour vous en rendre compte de la saleté qu'il laisse. Les filtres ne supportent plus parce que l'essence et les mazoutes sont de mauvaise qualité. S'ils peuvent revoir la qualité des produits, des conservations du carburant. Souvent, nous recevons des plaintes de bougies, filtres, doseurs et injecteurs dus à la mauvaise qualité du carburant.
Mais d'où vient justement ce carburant de mauvaise qualité?
C'est ça la grande question, Mireille. Les usagers accusent tous les opérateurs œuvrant dans ce secteur, ceux qui sont partenaires à SEP Congo et les indépendants. Bref, toutes les stations-service de Kinshasa vendent du mauvais produit pour étayer leurs propos. Nos sources ont même cité le concessionnaire CFAO qui vend et répare la plupart de ces véhicules et qui serait également parvenu à cette conclusion après analyse des échantillons de ces produits dans ses laboratoires asiatiques. C'est ce que nous vous disions mardi dans Écho d'économie. L'enquête se poursuit et au moment où nous vous passons cette rétrospective, nous avons déjà la réaction de SEP Congo et la suite de l'enquête se poursuit auprès de ceux qui sont des distributeurs dans ce secteur de carburant. Honorable, vous avez une Jeep et vous utilisez certainement du carburant, du diesel ou de l'essence. Voulez-vous aussi dire un mot sur la qualité du carburant tel que les conducteurs et les garagistes, les mécaniciens l'ont dit?
Je vous ai dit que dans tous les secteurs, c'est du poteau-poteau et j'exhorte le gouvernement, nous devons quand même changer le pays petit à petit en prenant du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire pour l'intérêt de la population congolaise. On importe du n'importe quoi dans notre pays. Tout entre... Et comme l'OCC aujourd'hui, vous allez demander pourquoi vous n'êtes pas si vigilant, on va vous dire, mais certaines choses, si vous voulez mettre la main là-dessus, il y a tel pouvoir, telle personne qui va vous appeler pour vous dire, ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas un pays jusqu'à ce niveau-là.
N'est pas un pays.
Mais lorsqu'on doit parler des choses pareilles, donc tout, même les produits périmés, les produits ceci, comme aujourd'hui c'est CFAO, il fallait attendre que CFAO puisse dénicher cela. Donc c'est un organisme ou une organisation étrangère qui doit venir nous faire voir que voilà les problèmes que vous connaissez chez vous, c'est grâce à ou à cause de ceci. Alors que nous avons un service particulier et spécialisé pour ça. Mais ce service, on va vous dire que nous ne savons pas mettre la main sur ces importateurs-là des carburants. OCC a un pouvoir sur eux. Aujourd'hui, la manière dont les choses se présentent. Alors que c'est un service public, on peut facilement arrêter quelqu'un. Mais écoutez, qu'ils osent seulement mettre la main sur quelqu'un, vous allez voir des coups de fil de gauche à droite. Mais c'est ça des choses. C'est quel type de pays? On doit quand même changer. On doit transformer les choses. On ne peut pas. Les individus ne peuvent pas commencer à se jouer de tout un gouvernement ou de tout un pays. N'importe qui dans son secteur, il est importateur de tel produit, tel denrée alimentaire, donc il impose ce qu'il fait, on nous amène du n'importe quoi. Depuis combien de temps on connaît que le type de carburant que nous avons, c'est de mauvaise qualité. Et alors, aujourd'hui que c'est connu cela, comme cela, que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Et qu'on double la vigilance.
On doit doubler certainement la vigilance.
Et alors, il faudrait
la rigueur dans tout ce que nous faisons, c'est là qu'on va prendre au sérieux un gouvernement. Donc chaque ministre doit être sérieux, il doit être rigoureux.
Il y a des lois, il y a des règles, il y a des normes. Faites respecter cela. Le travail de la police, c'est quoi?
Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens de ne plus importer les véhicules fabriqués avant l'an 2002. Vous allez dépenser beaucoup d'argent, vous importez, vous achetez votre véhicule, il arrive ici et tout de suite, à cause de mauvaise qualité de carburant, vous la perdez.
On a pris une décision, mais laquelle décision sera contre... On croyait résoudre des problèmes pour permettre aux Congolais de commencer à errer aisément,
oui.
Mais il y a encore un problème de carburant maintenant qui pose problème. La première décision, ça pèse lourdement sur le Congolais. Bon, et comprenez, chaque décision de transformation profonde, ça crée toujours des malaises, mais il le faut, c'est nécessaire. Donc il faut importer les véhicules à partir de 2003. Ça coûte déjà par rapport aux véhicules de 1999, c'est moins cher, c'est 1 000 $, 2 000 $ que vous pouvez avoir une Jeep, une voiture. Mais aujourd'hui, ça devient impossible. Mais alors, on laisse à une certaine classe, mais même cette classe-là n'a pas toute possibilité de pouvoir se procurer et donc assurer des pannes, des résolutions des pannes à tout moment.
Merci beaucoup, honorable. Et c'est sur cette note-là que nous allons terminer Panorama économique de cette semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous allez également dire merci à tous les membres de l'Union nationale des paysans du Congo de notre part.
Ok, merci.
Panorama économique de cette semaine, c'est terminé. Vous retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radiookapi.net. L'actualité économique sur Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi, 18h04, heure de Kinshasa. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.